This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio 10. France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir au Kenya et au Vatican. Ailleurs dans le monde, le journal de l'international de Michael Thébault. Cinéma, Eva Bétan vient nous parler tout à l'heure des figures de l'ombre. 18h55, l'édito de Vincent Giret du quotidien Le Monde consacré ce soir à la Suède avec ce retour au service militaire. Tout de suite, les Pays-Bas.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Pays-Bas, France, Allemagne, vous le savez, trois élections déterminantes vont avoir lieu dans les semaines et les mois qui viennent en Europe. Le 15 mars, tout prochainement donc, ce sont les Néerlandais qui voteront. Élections législatives cruciales avec des partis de gouvernement classiques gauche et droite en grande difficulté et une puissante extrême droite conduite par Geert Wilders. Analyse de la situation politique néerlandaise ce soir avec Jean-Yves Camus. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être au micro d'Inter, politologue, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des nationalismes et des extrémismes en Europe. Vous la regardez de près, Jean-Yves Camus, cette élection ?
Ah oui, tous les jours, avec des sondages qui, pour le moment, prouvent que le PVV, le parti de M. Wilders, est en léger recul dans les intentions de vote, comme d'ailleurs assez régulièrement. Il y a, avant chaque consultation législative, un pic à moins 2 mois, moins 3 mois à peu près, puis ensuite un léger tassement qui fait de M. Wilders un arbitre de la vie politique, ça c'est exact, mais en aucun cas le prochain Premier ministre du pays.
Et comment on explique ce tassement? On a pu lire que du Brexit à l'élection de Donald Trump, il y avait un petit effet d'atterrissage, même s'il reste très puissant. Hein.
Oh, il y a eu surtout l'effet du procès qui a été intenté à Geert Wilders l'année dernière pour des propos contre l'islam dont il est assez coutumier. Il y a eu encore un petit regain de popularité après qu'il soit entré en campagne avec des propos extrêmement virulents à l'égard de la communauté marocaine. Et puis ensuite, j'allais dire, après cette surexposition médiatique, les choses se tassent un petit peu, en partie parce que toutes les formations politiques néerlandaises, en particulier les libéraux et les chrétiens-démocrates, plus évidemment les sociaux-démocrates, ont indiqué qu'ils n'étaient pas prêts à une coalition avec M. Wilders. Donc ça fait de ce vote, d'une certaine manière, un vote perdu d'avance.
Et ça ne rend pas les électeurs sur place ivres de rage ?
Ça rend effectivement les électeurs assez mécontents parce qu'on a une vie politique qui est dominée par trois formations depuis, je dirais pas la nuit des temps, mais en tout cas depuis pas mal de décennies. Vous savez, les Pays-Bas sont un pays à société pilarisée. C'est un terme qui peut paraître un petit peu barbare, mais qui décrit une société dans laquelle, contrairement à la France républicaine et laïque, chaque famille religieuse et philosophique est institutionnellement représenté. Il y a un consensus. Alors on a à la fois des partis catholiques, des partis libéraux, des partis protestants, y compris d'ailleurs très conservateurs, une famille social-démocrate, et puis on a un ovni qui est arrivé, non pas avec M. Wilders, mais au début des années 2000, avec cet homme qu'on a oublié depuis, qui s'appelle Pim Fortuyn, qui avait à l'époque, non pas défrayé la chronique, mais connu la une des actualités parce qu'il avait été assassiné à 9 jours des élections législatives et qu'il avait été le premier à porter une protestation qu'on assimilait à l'extrême droite, mais qui est en fait très différente des partis néo-fascistes traditionnels. Monsieur Wilders est un politicien libéral qui a quitté son camp sur les questions du multiculturalisme et de l'immigration. C'est pas le descendant des néo-fascistes hollandais.
Expliquez-nous alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de cette extrême droite néerlandaise si elle n'est pas néo-fasciste?
Ce qui fait sa spécificité, à mon sens, elle n'est pas la seule en Europe, c'est qu'elle a retourné un certain nombre des codes du libéralisme culturel des années 60-70 pour se les approprier. Exemple, M. Wilders explique qu'il y a un nouveau totalitarisme au XXIe siècle, qui est le totalitarisme islamique, qu'il appelle d'ailleurs volontiers islamo-fascisme, et que ce totalitarisme-là, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, aux Pays-Bas, où existent deux communautés importantes, d'origine turque et d'origine marocaine, est en train de renier sur les droits des minorités. Quelles minorités ? Les femmes. Les islamistes s'attaquent aux droits des femmes. Les homosexuels. Les athées, puisque l'islam radical n'admet pas la critique religieuse. Les juifs, avec l'émergence du nouvel antisémitisme. Et puis, tout simplement, tous ceux qui sont attachés au modèle extrêmement tolérant, trop tolérant peut-être, de la société néerlandaise, sur la question de la dépénalisation des drogues, de l'euthanasie, de tout ce qui a fait la notoriété des Pays-Bas comme symbole d'une société permissif et multiculturel. Et Wilders dit, mais tout cela aujourd'hui, c'est en fait l'islam, par l'intermédiaire de l'immigration, qui est en train de saper les fondements de notre modèle. Par conséquent, et alors là, il est beaucoup plus radical, évidemment, que Marine Le Pen, interdiction des mosquées, interdiction du Coran, et évidemment, renvoi possible des immigrés vers leur, entre guillemets, pays d'origine.
C'est ce qu'on appelle le protectionnisme culturel.
Oui, c'est une forme de protectionnisme culturel, c'est-à-dire cette idée qui consiste à dire nous sommes non seulement menacés par la mondialisation et, l'islamisation et l'immigration en général d'ailleurs, au plan économique. Nous perdons des emplois, il y a des entreprises qui se délocalisent, c'est pas très vrai aux Pays-Bas d'ailleurs, mais c'est surtout culturel en fait, cette peur du... non pas du déclassement, mais de la perte de substance, du fait de voir changer sous nos yeux le modèle culturel dominant auquel nous sommes habitués.
Et donc, il retourne, Jean-Yves Camus, un certain nombre des grands combats, on va le dire rapidement, de la gauche ou du libéralisme au sens moral du terme, enfin au sens des mœurs, il retourne ça contre les immigrés. Nous sommes, nos valeurs sont menacées, l'égalité des sexes, la défense de l'homosexualité, sexualité, tout ce qui nous constitue est menacé par eux. C'est bien ça le calcul politique.
Oui, puis menacé par l'Europe aussi, parce qu'il explique que les ouvriers néerlandais, effectivement, sont victimes aussi de l'Europe, que même la classe moyenne hollandaise est victime de l'Union européenne, avec une particularité, c'est que la Hollande est un pays qui, évidemment, est, comme tous les pays riches, se méfie beaucoup de la solidarité européenne et des transferts occasionnés par cette solidarité. En Hollande comme en Allemagne, on ne veut pas particulièrement payer pour ces pays du Sud dont la dette est galopante et dont on ne sait pas très bien si les citoyens travaillent vraiment ou, je reprends évidemment le langage de M. Wilders, profitent du système. Donc on se dit, surtout après la sortie de la Grande-Bretagne vers laquelle les Pays-Bas sont extrêmement tournés, que finalement, la Hollande, pays prospère, peut très bien vivre sans l'Union.
Comment expliquer que le débat sur l'immigration soit devenu à ce point central dans la vie politique néerlandaise?
Oh, c'est pas seulement dans la vie politique néerlandaise,
oui, bien sûr.
C'est à un moment donné aussi le retour de bâton du fait que lorsqu'on passe d'une société culturellement non pas homogène, parce que les Pays-Bas ne l'ont jamais été, mais, allez, disons les choses, massivement chrétienne, et même assez profondément chrétienne, à une société vraiment multiculturelle sur laquelle vient se greffer une famille religieuse à laquelle on n'est pas habitué, que l'on connaît mal, il faut l'expliquer, il faut se saisir des enjeux que cela pose, y compris la question de l'immigration. Or, en Hollande, peut-être plus qu'ailleurs, mais pas seulement, on a fait comme si les problèmes causés par l'arrivée de la société multiculturelle n'existaient pas. On a été un peu dans ce qu'on appelle en anglais le wishful thinking, vous savez, le fait de se dire ça va marcher. Slogan de Madame Merkel, ça va, les immigrés du Moyen-Orient, les réfugiés du Moyen-Orient, on va les intégrer, ça va marcher. Mais il y a toujours une frange de la population pour qui ça n'est pas naturel, à qui il faut effectivement expliquer le processus. Puis il y a aussi, évidemment, la question des droits et des devoirs, puisqu'on doit, quand on vient quelque part, tout de même, s'intégrer à la société dans laquelle on arrive. Or, au Maroc, les Marocains et Turcs d'origine sont très très prisonniers de l'attitude de leur pays d'origine, précisément, qui consiste à leur dire, mais quoi que vous fassiez et où que vous soyez, vous restez avant tout des sujets marocains, des citoyens turcs. On a vu tout le remue-ménage que font les discours que M. Erdogan comptait prononcer en Allemagne à l'occasion du référendum. Il faut savoir que M. Erdogan fait campagne partout en Europe. Hein. Il fait la tournée des communautés turques et il s'adresse à eux comme s'ils étaient, même s'ils résident en Allemagne ou en Hollande depuis des décennies, des citoyens turcs, uniquement concernés par les enjeux de la vie politique turque. À un moment donné, il est vrai que c'est quelque chose qui ne paraît pas naturel au reste de la population.
Jean-Yves Camus, est-ce que toutes les extrêmes droites européennes regardent ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer dans les urnes aux Pays-Bas?
Oui, parce que l'idée générale au sein de ces partis, c'est qu'il y a un cycle qui a commencé avec le Brexit, qui s'est poursuivi avec l'élection de Donald Trump, qui va se continuer avec l'élection de M. Wilders et, ajoutons au Front National, va se poursuivre avec l'élection présidentielle française. Pour autant, faut vraiment se garder de comparer des choses qui sont peu comparables. Aux États-Unis, le système électoral est très particulier. C'est celui-là et celui-là seul qui a permis la victoire de Donald Trump. On a aussi un effet système électoral aux Pays-Bas, puisque c'est la représentation proportionnelle qui est en vigueur. On prend le total des voix exprimées, hein, un peu plus de 9 millions aux dernières élections. On divise par le nombre de sièges à la Chambre basse, 150, et on a un quotient électoral. Avec 63 000 votes, un petit peu moins, on a un siège. Ça donne un paysage politique extrêmement éclaté. La présence au Parlement du parti des plus de 50 ans, du parti des droits des animaux, des deux petits partis fondamentalistes protestants. Et au final, faut bâtir un consensus. Et c'est un peu un consensus de briquet de broc, quand même. Et finalement, celui qui vient apporter de la nouveauté et du chamboulement dans un jeu politique qui est quand même, faut le dire, assez ennuyeux, assez peu mobile, eh bien, c'est Geert Wilders.
Et donc la grande différence entre les Pays-Bas et la France, du coup, en dépit du, enfin, il y a le mode de scrutin évidemment, mais vous en voyez d'autres substantiels.
Ah, la notion du multiculturalisme, parce que vraiment l'appartenance à ces familles traditionnelles, la place de la religion jusqu'à une date récente, évidemment, ça se sécularise comme partout, mais enfin, on est quand même encore lié à un parti catholique, à un parti protestant. Où on appartient à une de ces deux communautés, la notion de la laïcité n'est pas complètement la même. Bon, évidemment, il faut le préciser, les Pays-Bas sont une monarchie, même si la souveraine est tout de même plus là en arbitre très au-dessus du jeu qu'en souverain régnant. C'est vraiment deux histoires totalement différentes. Et puis, il y a ce manque de charisme des hommes politiques néerlandais. Wilders, c'est comme Pim Fortuyn, c'est de la flamboyance. On parle tout le temps des cheveux peroxydés, mais il n'y a pas que les cheveux peroxydés, il y a aussi la capacité à transgresser les codes du politiquement correct, qui sont quand même extrêmement présents aux Pays-Bas. Et finalement, Wilders ne s'adresse pas aux classes laborieuses néerlandaises, il s'adresse aussi à tous ces urbains diplômés qui sont attachés au mode de vie tolérant qui a érigé la Hollande en modèle et qui sentent que ce modèle, petit à petit, il se casse la figure. C'est quand même un erreur pays, on est assassiné d'un politique.
Oui, et les urbains diplômés se reconnaissent en lui, parce que qu'il leur parle, c'est une chose, mais est-ce qu'ils se reconnaissent dans cette offre politique?
Les urbains diplômés, ils se disent pour beaucoup que finalement la prospérité néerlandaise serait à peu près la même si elle était en dehors de l'Europe, et puis ils peuvent se reconnaître aussi dans quelqu'un qui a une éducation supérieure, qui n'est pas venu de l'extrême droite traditionnelle, qui n'est pas dans la violence, qui a amené autour de lui, non pas dans son parti, parce que son parti n'existe pas, son parti c'est lui, il en est le manager et l'unique membre. Mais Geert Wilders a amené autour de lui des gens qui sont des urbains diplômés, des femmes. Hein, il insiste beaucoup sur la dimension égalité des genres. Et on se reconnaît beaucoup plus facilement dans Geert Wilders qu'on pouvait se reconnaître dans les petits partis d'ultra-droite qui ont eu un siège au Parlement néerlandais des années 70.
Mais ça, c'est spécifique aux Pays-Bas que des urbains diplômés se retrouvent dans une offre d'extrême droite, ou c'est un phénomène qu'on commence à observer partout?
C'est un phénomène qu'on a déjà observé depuis très longtemps chez ces populistes xénophobes et anti-européens scandinaves qui n'ont pas non plus de racines dans l'extrême droite traditionnelle et qui, par conséquent, ne sont pas sujets au même cordon sanitaire, au même ostracisme, j'allais dire à la même réserve mentale qui existe quand on sait qu'un parti a quand même son histoire, une partie de son ADN dans l'extrême droite traditionnelle, où effectivement on a des scrupules compte tenu de l'histoire. Là, il n'y en a pas.
C'est comme ça, on y va parce que...
C'est une ultra-droite détabouisée avant la lettre, si je puis dire, même si, par rapport aux populistes scandinaves, sur la question de l'islam, encore une fois, Wilders pousse le curseur extrêmement loin. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans la guerre des civilisations et le schéma consistant à dire qu'il y a une incompatibilité radicale entre le fait musulman, culturel ou religieux, et l'appartenance à une nation européenne.
J'ai lu qu'il avait parlé de la racaille marocaine en pleine élection.
La racaille marocaine, c'est l'expression qu'il a utilisée le jour de son entrée officielle en campagne dans une banlieue de Rotterdam. Alors ça paraît totalement délirant en vertu de nos codes politiques français, mais ça parle à une partie de la population. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a des problèmes d'intégration extrêmement sérieux aux Pays-Bas, un développement de la délinquance qui touche une partie de la jeunesse d'origine immigrée, et Wilders se surfe là-dessus, c'est-à-dire qu'il explique, en termes culturalistes, qu'en fait, il n'y a pas de politique d'intégration possible. Pour faire court, ce sont des racailles parce qu'ils sont marocains. Et c'est un langage qui commence à percer tout de même. Mais entendons-nous bien, le fait que Geert Wilders remporte la majorité des suffrages aux élections législatives néerlandaises, c'est une vue de l'esprit. Il va remporter un nombre de sièges qui peut effectivement en faire le principal groupe parlementaire, mais quand on fait sigma de tous ceux qui s'opposent à lui d'un côté et lui de l'autre, le mieux qu'il puisse espérer, et c'est déjà ce qu'il a réussi il y a quelques années, c'est être au Parlement une force qui, permet ou ne permet pas au gouvernement de faire passer telle ou telle législation, et qui en fait incite un gouvernement de coalition, encore une fois, à être plus drastique sur les questions d'immigration, de citoyenneté.
Arbitre, c'est pas mal, hein, quand même.
C'est un petit peu ça qui se passe partout en Europe, hein, notamment en Scandinavie. Les Danois fonctionnent sur ce modèle depuis quelques décennies. Le Parti du Peuple danois, pendant des années, a soutenu le gouvernement de centre-droit sans y participer, ce qui est une position assez confortable, qui permet à la fois d'influer sur l'agenda politique et en même temps, en tant que parti anti-système, de ne pas subir le contre-coup de la participation gouvernementale. Parce que naturellement, quand vous êtes aux manettes, vous êtes décisionnaire et vous pouvez avoir à prendre, c'est ce qui est arrivé au FPE autrichien de M. Haider dans les années 2000, des décisions qui vont à contre-courant des promesses que vous avez faites, notamment en matière économique et sociale. À ce moment-là, aux élections suivantes, vous êtes en porte-à-faux vis-à-vis d'autres électorats, notamment populaires, et vous perdez des voix, vous perdez des sièges. Les Danois et potentiellement M. Wilders peuvent contourner cet écueil-là en étant une force qui détermine en partie l'agenda politique, mais sans se mettre les mains dans le cambouis.
Jean-Yves Camus, merci. Politologue, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste, on l'a entendu et on le sait, des nationalismes et des extrémismes en Europe. Le scrutin aux Pays-Bas, c'est donc le 15 mars prochain. On y reviendra évidemment d'ici là. Merci encore d'avoir été au micro d'Inter. James Brown, puis le journal de l'International.
Get yourself together and drive that funky soul.
James Brown sur Inter. Ailleurs dans le monde.
Satiradas 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Michael Thébault, bonsoir.
Bien, bonsoir Nicolas.
Pour commencer, direction le Vatican, où un livre, Michael, fait polémique depuis plusieurs semaines. Son titre, La première pierre.
Et son sous-titre, Moi, prêtre gay face à l'hypocrisie de l'Église, signé Christophe Karamza, ex-haut dignitaire de la Curie romaine, qui jusqu'au 3 octobre 2015 exerçait de prestigieuses fonctions au sein de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Cet organisme qui, vous le savez, veille à la cohérence de la doctrine catholique, la ligne du Vatican, si vous voulez, poste très convoité, envié, surveillé, et donc perdu ce 3 octobre 2015, à la veille du très attendu synode sur la famille, synode convoqué par le pape François lui-même, car Christophe Karamza avait choisi ce jour pour enfin oser faire son coming out, révéler au grand jour son homosexualité, d'où le titre de cet essai, La première pierre, pierre angulaire pour lui, évidemment, et espère-t-il aussi pour l'Église tout entière. Il l'a dit à Olivier Poujade, écoutez.
Pour moi, en tant qu'homosexuel, la pierre angulaire de ma vie, de ma liberté, de la conscience, de l'identité, a été le coming out. C'est-à-dire sortir d'un armoire de peur, de haine pour soi-même, de fausseté sur ce que je suis, sur mon identité.
Et je crois que una pietra angolare che necessita la Iglesia cattolica,
et je pense que c'est une pierre angulaire qui est importante pour l'Église catholique, c'est-à-dire une pierre pour l'Église catholique qui n'a pas encore commencé à se confronter avec la réalité de la diversité du monde. Donc le coming out est un moment de protestation, de dénonciation et en même temps une demande de pardon au nom d'une Église qui ne parvient pas à dialoguer avec le monde d'aujourd'hui.
Il momento del coming out, donc, nell'ora del sinodo,
le coming out au moment du synode a été un choix précis afin d'indiquer à l'Église qu'elle ne peut plus ignorer les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles.
Voilà, et ce coming out a donc valu à Christophe Karamza d'être suspendu, synédié. Alors s'attendait-il à des sanctions officielles, perdre son poste au Vatican ? Oui, mais pas à ce point, et surtout pas de la part d'un pape tel que François.
Sì, però chiaramente io sapevo
oui,
quali saranno le
bien sûr,
conseguenze
je savais
legaliste et formaliste
les conséquences juridiques d'une Église qui a peur de ce thème, qui le refuse, qui le considère comme un tabou et qui ne veut pas dialoguer. Donc l'Église ne m'a pas seulement écarté, mais ils ont tout fait pour brûler mon nom, pour détruire tous les ponts qui pouvaient exister entre moi et l'Église, m'annuler complètement. Mais ce qui était une surprise pour moi, c'était que l'Église de Pape François, qui avait promis que cette Église aurait été comme un hôpital qui aurait accueilli toute personne égarée,
eh
bien, même lui n'avait pas cette poussée évangélique pour essayer de comprendre ce qui s'est passé.
Voilà, alors critique, hein, vous l'avez compris, assez féroce du pape François, mais plus encore de la hiérarchie ecclésiastique qui, de bas en haut, fait preuve, selon lui, de la même hypocrisie, refus de voir, de reconnaître l'importance de la communauté gay au sein de l'Église.
L'Église doit sortir de cette fermeture paranoïaque où aucune discussion est possible. Il est impossible de discuter des orientations sexuelles alors que c'est quelque chose que nous connaissons très bien. Et en même temps, au sein des clergés, il y a beaucoup d'homosexuels. Le clergé est rempli, plus que rempli de personnes homosexuelles.
Ah voilà, alors ça peut choquer évidemment, et Christophe Karamsa va même plus loin encore, estimant que la moitié du clergé catholique est homo. Provocation bien sûr, mais à bon escient.
Questo numero è una provocazione del
disons
libro.
Disons que ce chiffre est une provocation, mais en même temps, il y a une base véridique à partir de mon expérience, de la connaissance de ce milieu dont j'ai, à laquelle j'ai appartenu. Donc il y a une base de vérité, mais en même temps, dans les livres, je dis aussi que je n'ai pas pu faire une enquête scientifique de cela. D'ailleurs, il y a d'autres auteurs qui affirment des chiffres bien plus élevés. Aux États-Unis, par exemple, on soutient que peut-être 60% du clergé serait homosexuel. Mais disons, ce n'est pas les nombres qui sont importants. Ce qui est important, c'est qu'il s'agit d'une réalité qu'on ne veut pas étudier et qu'on ne veut pas affronter de manière sereine, objective. Il faudrait interpréter des passages de la Bible que l'Église utilise contre les homosexuels. C'est cela le péché de l'Église, c'est cela le péché de l'homophobie, le péché du refus de vouloir se confronter avec la réalité de l'homosexualité.
À se confronter à la réalité de l'homosexualité, mais pour cela il faudrait des progressistes, des intellectuels réformateurs, et ils existent au sommet du Vatican, oui, sauf que le système lui-même les empêche tout simplement de se faire entendre.
Bien sûr, il y aurait des personnes tout à fait compétentes, il y a des grands esprits catholiques, mais ces personnes sont bloquées par une hiérarchie, par un système de contrôle, c'est-à-dire une vraie dictature, une sorte de régime qui détruit une réflexion catholique qui pourrait représenter une vraie valeur pour le monde. Mais le système du pouvoir, c'est-à-dire Papa François, à un certain âge, il est arrivé à Rome avec ses propres idéaux, avec un message de liberté. Et il a trouvé une situation très rigide, une sorte de monstre très difficile à faire bouger.
Mais
j'ai l'impression qu'il n'a même pas essayé à faire bouger ce monstre qui serait le Vatican.
La parole rare, hein, étonnante même, Christophe Karamsa au micro d'Olivier Poujade. La première pierre, moi prêtre gay face à l'hypocrisie de l'Église, c'est donc aux éditions La Découverte. Et c'est passionnant si vous voulez comprendre de l'intérieur le fonctionnement aujourd'hui de la curie romaine.
Rien à voir maintenant, direction le Kenya, Michael. Le Kenya où l'on observe un renouveau du livre africain.
Ah vraiment, et essentiellement grâce à l'émergence depuis quelques années d'une nouvelle vague de jeunes écrivains africains, mais qui souvent, hélas, se trouvaient jusqu'ici beaucoup plus facilement dans les librairies de Paris, Londres ou New York qu'à Nairobi ou Dakar. Et bien justement, au Kenya, on assiste à toute une série d'initiatives visant à promouvoir ces auteurs africains et donc d'abord à rendre leurs livres accessibles au plus grand nombre. Une vraie petite révolution dans un pays où les librairies ne vendent quasiment que des auteurs occidentaux, majoritairement anglophones. Ça va de Shakespeare à Stephen King. Bonsoir Bruno Meyerfeld en direct de Nairobi.
Bonsoir.
Nairobi, capitale kényane, où vous avez donc trouvé, Bruno, une librairie 100% africaine.
Oui, c'est une librairie en ligne, elle s'appelle Magunga, du nom de son fondateur, Magunga Williams, et elle se fait fort de ne proposer exclusivement que des livres de fiction d'auteurs africains. Son créateur m'explique l'origine du projet.
Allez dans n'importe quelle librairie au Kenya, vous verrez que le rayon auteur africain est très limité. Au mieux, vous trouverez quelques stars africaines ou l'autobiographie de Mandela, et c'est tout. La plupart du temps, vous ne trouverez presque aucun autre auteur.
Créé il y a un an, Magunga est un vrai succès. La librairie propose déjà plus de 500 titres et a sans arrêt de nouvelles commandes. Mais Magunga n'est pas la seule initiative au Kenya. Le pays fourmille aujourd'hui de festivals, de salons du livre, de prix, de clubs de lecture. Mais pourtant, les Kenyans ont toujours la réputation de lire peu de livres, comparé notamment aux Sud-Africains ou aux Nigérians. Pour Magunga Williams, c'est aussi lié à la manière dont on enseigne la littérature à l'école kenyane.
La plupart des Kenyans ne sont pas capables de citer plus de 3 auteurs de leur propre pays. Beaucoup de gens ici vous diront « j'ai lu tel ou tel livre au lycée et depuis je n'ai plus rien lu ». Et je pense que c'est la manière dont on enseigne la littérature à l'école qui est trop studieuse. On dissèque les textes, les personnages et c'est souvent très ennuyeux.
Et justement, Bruno, on imagine que lire des auteurs africains pourrait aider à pousser les jeunes Kenyans vers la lecture.
Ah oui, tout à fait, et c'est ce que pense Angela Wahito. Elle est la cofondatrice de Ides of March. C'est un site qui aide les Kenyans à se procurer des livres difficiles à trouver, en grande partie des auteurs africains et kenyans, en les important depuis l'étranger.
L'Afrique a l'un des taux d'alphabétisation les plus bas du monde. En faisant la promotion de nos auteurs, on peut pousser les gens à lire davantage et à faire baisser ce chiffre. Par ailleurs, la plupart des gens à l'étranger se représentent l'Afrique comme un continent très noir, très pauvre, sans éducation, avec la faim et la sécheresse. Il faut que nous, les Africains, on donne une meilleure image de notre continent. Et je pense que si on écrit nos histoires et qu'on les lit, on peut montrer la réalité telle qu'elle est et changer cette vision très négative.
Alors justement, Bruno, pourquoi faut-il encore importer les livres africains ?
Eh bien, c'est bien simple, les éditeurs ici n'impriment quasiment aucun auteur de leur propre pays. C'est ce que m'explique Ahmed Ali, le patron de la librairie Prestige, l'une des plus anciennes de Nairobi. Aujourd'hui, la moitié des livres de fiction qu'il vend sont des auteurs africains, mais il doit quasiment tout importer depuis l'étranger.
Ça revient plus cher d'imprimer les livres au Kenya que de les importer. Du coup, les éditeurs kenyans n'impriment que des livres scolaires. Par exemple, cet auteur qui a écrit un livre génial, Dust, un petit éditeur local l'a certes publié, mais surtout l'éditeur américain Random House. Résultat, cette écrivaine est plus connue aux États-Unis qu'au Kenya.
Alors, Ahmed Ali n'en doute pas, les éditeurs se mettront bien un jour à imprimer de la fiction africaine. Magunga Williams, de son côté, pense déjà à louer une vraie boutique et ouvrir sa librairie 100% africaine. Et il a déjà un nom en tête, Rugano, ça veut dire histoire en langue kikuyu.
Passionnant, merci beaucoup Bruno Meyerfeld, correspondant de France Inter à Nairobi. Et sachez que vous pouvez retrouver dès maintenant sur notre site à nous et bien quelques conseils de très bons auteurs kenyans à découvrir. À demain Nicolas.
À demain Mickaël.
Moteur. Un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
Oh, allons-y.
Sur France Inter.
Oh putain, moteur.
Ah, Eva Bétan est là, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Ma chère Eva, vous nous parlez aujourd'hui du film Les Figures de l'Ombre, je vous écoute. Vous avez 4 minutes.
Qu'est-ce que le mieux dit après ? Alors je vais vous dire qu'il est question dans ce film d'un paradoxe, de femmes d'exception qui sont traitées comme des êtres inférieurs. Et vous allez me dire, mais... il y a un problème, je dis oui, le problème, c'est la ségrégation raciale, c'est l'époque, les États-Unis du début des années 60. Alors c'est une histoire extraordinaire, c'est 3 femmes noires, brillantes, surdouées, mathématiciennes de génie, c'est la période d'avant les ordinateurs. Donc on les surnommait les ordinateurs en jupon. Elles faisaient les calculs à une vitesse extraordinaire et c'est une période très intéressante parce que l'URSS est en train d'avancer avec les programmes Sputnik et les États-Unis, c'est vraiment la guerre froide, les États-Unis veulent absolument les rattraper, les distancer, c'est le programme Apollo. Donc, ce film va nous être raconté comme la belle histoire. On est contente, elle trouve plein de choses et tout. Et en même temps, sur ce même ton, comique presque, il va nous raconter la ségrégation. En même temps qu'elle fait l'équation majeure, elle doit courir sous la pluie pour aller aux toilettes. Et si vous voulez, c'est ça qui est intéressant parce que, du coup, comme il nous raconte une histoire positive, il peut nous raconter la ségrégation tout en même temps. Et c'est encore plus révoltant de le voir comme ça. Donc, c'est intéressant le choix qu'il fait de montrer cet aspect de la ségrégation. Théodore Melfi.
C'est une page horrible de l'histoire des États-Unis. Nous voulions montrer le racisme. Vous avez déjà pu voir au cinéma le racisme dans ses expressions les plus extrêmes. Les images de croix brûlées, de maisons incendiées, on a pu voir aussi des mouvements de protestation. Nous avons voulu montrer un autre aspect du racisme et de la ségrégation.
On a oublié ce que ça a été que la conquête de l'espace à l'époque. Est-ce que l'enjeu était tel qu'il fallait trouver les meilleurs et peu importe qu'ils soient blancs, noirs, homme ou femme ?
La NASA était, et elle est toujours, une véritable méritocratie.
Si vous avez le niveau pour faire le job, le niveau en maths, vous pouvez arriver jusqu'au sommet de la NASA. Ils n'ont pas de temps à perdre avec ces mesquineries que constituent le sexisme et le racisme. Même s'il y a eu de la ségrégation à la NASA, cela n'a pas duré longtemps. La NASA était et elle est toujours très progressiste. La NASA aujourd'hui a une politique d'égalité entre hommes et femmes en matière d'embauche. Pour chaque homme recruté, il y a une femme recrutée. La NASA a toujours été en avance sur son temps.
Votre film, vous le faites aujourd'hui dans l'Amérique d'aujourd'hui. Est-ce que ça a un sens par rapport notamment au racisme?
Oui, le film garde toute sa pertinence de nos jours, avec ce qui se passe aux États-Unis et dans le monde. Il donne une grande leçon, aux États-Unis particulièrement, parce qu'il montre un moment de l'histoire américaine où des Noirs et des Blancs, des hommes et des femmes, ont travaillé ensemble pour faire de grandes choses. Et le seul moyen d'arriver à faire de grandes choses était de travailler ensemble en mettant les différences de côté. C'est de cela dont le film parle profondément. Et le public américain comme le public étranger, a répondu à ces femmes, à cette histoire. Le film est un succès.
Oui, film positif, effectivement, parce qu'on voit aussi l'évolution beaucoup plus rapide de la NASA sur cette question. Le succès, je trouve ça intéressant. C'est peut-être la manière dont l'histoire est racontée. Le film a coûté 25 millions de dollars. Il a rapporté à ce jour, et ce n'est pas fini, 160 millions de dollars de recettes brutes aux États-Unis, 195 si on inclut le reste du monde. Recettes brutes, c'est leur manière de compter, c'est pas les bénéfices. Nous, on compte en entrée, ils multiplient le nombre d'entrées par le prix du billet. Mais c'est beaucoup.
Les figures de l'ombre, donc.
Voilà.
Merci Eva Bétan, en salle demain. Il est 18h53, l'édito dans quelques instants. Hoping to receive him, I've been holding out for G, but he was nowhere to be seen when I was bleeding. Cousin with the choking and the wheezing. But still he dreaming, smoking potent in the evening. This is only for the heathens. Holding to the souls who need redeeming from the demons. Still ain't folding when it's freezing. There ain't no one to believe it. I'm on that man's side, damn right, doing it myself from a landslide. Stand by, didn't need no help from no damn guy. Man, bye, I've been making waves all my damn life. Plan might step to the letter and I stand by it. Try it, we ain't holding back if it backfires. Lax, not the ones who carry crack till they're back tired. Thought they make a meal till it transpired. I ain't like them damn liars. I'm saying I ain't like them damn liars. Trust. Told him I get like them damn liars. So keep your mouth closed shut. Eyes wide open when that doubt rolls up. Cause if the drought shows nothing but the clowns hold nothing but the sound, I'll be running till the ground open up. Cause the best don't change. Clinging to that cold one. My mother said there's no love until you show some. So I showed love and got nothing. Now there's no one. You wonder why I couldn't keep in tow, son. I wonder why my dad didn't want me. Ex didn't need me. Half of them left and the rest in the breeze. Me gets blessed till I second guess. Loïl Carner sur Inter et Vincent Giré.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Vincent Giré du quotidien Le Monde. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Vous nous emmenez Vincent ce soir en Suède où le gouvernement vient de décider de rétablir le service militaire.
Et oui Nicolas, le spectre de la guerre revient irrésistiblement dans nos démocraties et s'il fallait un énième signe de cette inquiétude qui nous étreint désormais, eh bien la Suède vient de nous la fournir. Ce pays de 10 millions d'habitants coincé entre la Norvège et la mer Baltique a annoncé le rétablissement du service militaire qui avait été pourtant supprimé il y a à peine 7 ans. Dans le contexte sécuritaire actuel de la région, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une armée affaiblie, explique un député libéral qui est aussi le président de la commission de la défense au Parlement suédois. Par contexte sécuritaire, entendez menaces et provocations russes répétées depuis au moins 18 mois. L'aviation militaire de la Russie parade en effet en mer Baltique et le long des côtes suédoises comme s'il s'agissait de son propre jardin. Le gouvernement de Stockholm avait déjà décidé de remilitariser l'île de Gotland, un gros caillou dans la mer Baltique, située entre la côte suédoise et celle de la Lettonie. L'armée y a installé un contingent permanent ainsi qu'un système de défense aérien et le gouvernement estime que cela ne suffit pas et qu'il a besoin de bras et de têtes bien formés aux tâches militaires. 13 000 filles et garçons nés en 1999 seront donc convoqués dès cet été pour passer des tests. L'armée va d'abord tenter une opération de séduction en espérant convaincre 4 000 volontaires de s'engager pour une période de 9 à 12 mois et si cela ne marchait pas, eh bien alors elle utiliserait la contrainte et le service redeviendrait obligatoire pour venir renforcer les troupes d'une armée professionnelle.
Et l'armée suédoise, Vincent, s'était vraiment affaiblie en quelques années ?
Eh bien, semble-t-il, Nicolas, la Suède avait fait, comme la France d'ailleurs, le choix d'une armée professionnelle en 2010, à une époque où le retour de la guerre, au moins en Europe, semblait sinon impossible, du moins totalement improbable. L'Europe tout entière, d'ailleurs, s'était abandonnée au confort et à l'insouciance de la paix en diminuant ainsi ses budgets militaires. Pour renouveler ses troupes professionnelles, la Suède tablait sur une hypothèse qui semblait alors raisonnable, l'enrôlement de 4000 jeunes volontaires par an. Seulement, la carrière militaire ne fait plus envie, ni aux recettes. 1357 seulement jeunes se sont portés volontaires en 2015. Et comme le chômage est très faible en Suède et qu'on trouve facilement du travail, eh bien, le recrutement de l'armée est devenu un casse-tête. D'autant que les recrues de ces dernières années ont eu fâcheusement tendance à déserter, entendaient à quitter l'armée au bout de simplement 5 ans pour prendre un job mieux rémunéré dans le privé. Et bien du coup, l'armée fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Il lui manque environ 7000 hommes par rapport à ce qui avait été planifié. Un risque d'autant plus fort que l'armée suédoise ne dispose d'aucune réserve.
Oui, car on y revient, les jeunes ne semblent vraiment pas enthousiastes, hein, Vincent.
Eh bien, pas vraiment, Nicolas. 62% des Suédois sont certes bien favorables au retour du service militaire, mais les jeunes, les filles comme les garçons, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment directement concernés, n'ont pas du tout envie que ce service sous les drapeaux redevienne obligatoire. Et cela illustre parfaitement l'ambivalence et la fragilité aussi de nos démocraties. Plus de 70 années de paix, ce qui n'était jamais arrivé dans la longue histoire bien tourmentée de l'Europe, nous ont comme désintoxiqués de la guerre et nous ont amenés à baisser sans doute un peu vite la garde. Qu'il s'agisse des rondomontades ou des provocations de la Russie ou de la folie djihadiste, les risques et les dangers reviennent dans notre démocratie. Et s'il faut bien se garder de sombrer à la fois dans la paranoïa ou dans la surenchère, l'impératif de la sécurité fait un retour en force selon des modalités qu'il nous faut sans doute réinventer. Il nous faut être d'autant plus vigilants sur ces nouveaux risques qui viennent que et sur le maintien de l'état de droit, qui est une autre façon de se préserver du pire, Nicolas.
Vincent Giray du quotidien Le Monde, merci. À 19h20, le téléphone sonne ce soir sur l'allongement des délais de prescription qui passe de 10 à 20 ans pour les crimes, de 3 à 6 ans pour les délits. Sur le papier, cette loi qui est transpartisane, et c'est assez rare en France, cette loi semble marquée au coin du bon sens et répond aussi à une demande sociale. Pourtant, elle soulève chez les magistrats, chez certains d'entre eux, parmi certaines victimes aussi, un certain nombre de critiques. Les associations de victimes peuvent récuser l'idée même de prescription, quelle que soit sa durée. On va y venir en détail. Vos questions 01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter avec le mot-clé Telson.